Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Souvent, malheureusement, la ville fait qu'on s'enferme, fait que la voix, en fait, on l'éteint. Donc du coup, on n'est même plus sur sa propre voix, on est sur un semblant de voix, on est sur un filet, et on n'est pas au cœur de nous, quoi. En fait, on raisonne plus. C'est vraiment s'autoriser à prendre le temps qu'il faut pour s'aimer et se regarder en face et être qui on est fondamentalement au fond, quoi.
Il m'a donné rendez-vous à un point GPS. J'y suis arrivée un jeudi matin, croyant être perdue dans la paisibilité du lieu dénoté avec Paris. Alors j'ai relancé le GPS 3 fois pour être sûre que ce soit bien là, et il est arrivé. On a marché un peu, discuté beaucoup, pour enfin allumer les micros jeunes. Et ensemble, on a arrêté le temps quelques instants, parce que Gaël a ce pouvoir immense d'hypnotiser par sa simple présence. Il utilise la musique comme langage, il compose et il écrit, avec une guitare, un crayon, une rivière, un potager, des randonnées et de l'amour. Il est fou de Jean Giono, ou fou tout court, il fuit l'hérésie des réseaux sociaux et tant pis pour les likes. Rien ne compte plus pour lui que la liberté, l'intensité, les sourires, les regards vifs et bons. Ce goût du vrai qui se délite avec le temps et les injonctions, Gaël, lui, le préserve, le propage et le vit à travers l'art. Avec Gaël, dans cet épisode, on parle d'ego, de temps et de musique. J'espère que cette écoute te fera ressentir le printemps.
Comme ça, à peu près là.
Ouais, là c'est parfait.
Parfait.
Comment tu vas, Gaël ?
Franchement, ça va. En ce moment-là, c'est une bonne période, assez bouleversante, mais en même temps, toujours enrichissante, quoi. Donc, ça va.
Avec l'été qui arrive.
Ouais, l'été, le frémissement aussi des dates de concert, les rencontres, les lieux, toujours différents.
Mmh. Lieux que tu sais bien choisir, parce qu'on a réussi à trouver, tu as réussi à trouver un havre de paix incroyable au milieu de Paris pour cette interview. Donc on est au soleil, l'été arrive, tout va bien.
Ouais, c'est vrai qu'on est bien, on est donc au cimetière du Père Lachaise.
Faut pas donner le lieu.
C'est vrai, faut pas. Si, faut.
Tout le monde va venir après.
Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Oh, mais il est grand quand même.
Ouais, c'est
et c'est vrai que c'est un, oui c'est pour le dire, c'est un havre de paix. Ouais. La rue du repos, le boulevard des Allongés, enfin on connaît quoi.
On connaît. Gaël, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es un artiste engagé sur les questions liées au climat et à l'écologie notamment. Tu fais de la musique depuis plus de 15 ans. De la musique, mais pas que, parce que tu as notamment fondé avec Cyril Dion et la Fondation Pierre Rabhi l'éco-festival Le Chant des Colibris. Donc tu portes ton engagement à plus large échelle et aussi par le biais de spectacles comme celui que tu viens de lancer.
Ouais.
Tu as grandi en Ardèche avec des parents agriculteurs. Et comme à chacun de mes invités, je vais te poser la question du petit garçon que tu étais. C'était quoi de grandir en Ardèche?
Le luxe. Le luxe au plus haut point, puisque donc la nature. En plus de ça, c'est vrai que j'ai la chance de... Mon père étant agriculteur, on vivait en plein milieu de la nature. Il y avait des vaches, il y avait des... On faisait 15 tonnes de framboises, 10 tonnes de mûres, 30 tonnes de châtaignes. Les blés, les maïs, l'irrigation le soir, les odeurs de l'été, le foin.
La terre retournée.
Ouais, non mais franchement, exactement. Et puis... ou gratter, mais donc une enfance d'aventure assez solitaire, puisque on n'avait pas vraiment le temps de partir par exemple en vacances, l'agriculture quoi.
Ah oui.
Mais en même temps toujours une connexion, et puis l'imaginaire aussi qui était très en forme, parce que je sais pas combien de temps j'ai pu passer dans un arbre en particulier dont je me souviens bien, mais là, je le vois là, mais assez longtemps je pense. Que
qu'est-ce que tu imaginais dans cet arbre?
Franchement, je saurais plus te dire exactement, mais je me faisais mes films à moi, sans doute. Si j'imaginais, voilà, être un pirate. Enfin, tu vois, ce genre de bêtises, mais qui sont pas du tout des bêtises. C'est des choses qui te construisent aussi. Je pense même, tu vois, au niveau de ta santé mentale aussi, et puis de ta manière aussi d'être à toi. En fait, te rencontrer déjà petit et de te suffire aussi un petit peu. Je pense que c'est ça le pouvoir d'un enfant. Après, j'ai aussi été assez malade petit, donc c'était un peu particulier. Mais toujours la connexion au vivant.
Ouais. Et d'avoir cette enfance aussi connectée à la nature, évidemment, ça crée des rêves. Comment tu imaginais la vie des grands? Comment tu te projetais dans la vie future, toi?
Franchement, en vérité, je me projetais pas du tout.
Ok.
J'ai pas du tout ce souvenir, étant petit, de me dire genre, oh, ça doit être quoi d'être grand? Alors, si j'avais deux, trois, je crois que c'était plutôt pour la partie un peu, amoureuse, quoi. J'avais des envies de me dire, oh, un jour je serai grand, je serai amoureux, j'aurai une copine, ou j'aurai, tu vois, et de savoir que oui, à un moment donné, si je me suis dit, ah, j'aurai un jour ma famille, ça va être marrant, mais c'était assez succinct, c'était pas des moments où je me posais avec moi-même véritablement. Je crois que j'étais plus dans le moment présent aussi, tu vois, et voilà, pas trop à penser à la suite, quoi.
Donc la musique est arrivée après, tu as acheté ta première guitare à 14 ans, je crois. Qu'est-ce qui te raccrochait à la musique à cet âge-là?
Je suis désolé, hein, pas grand-chose.
Ok.
C'était pas du tout mon envie de faire ce métier-là. Je me suis acheté une première guitare parce que j'avais vu un concert, et je trouvais ça... Déjà, c'était mon premier concert, donc j'hallucinais, je découvrais une scène, des artistes, des gens qui viennent voir des artistes, un festival, c'était un festival qui s'appelait Lamastre Rock à côté de chez mes parents en Ardèche. Durant la saison des framboises l'été. Donc là, on partait avec les ramasseurs de framboises, parce qu'on avait une vingtaine de ramasseurs qui venaient à la maison pour faire la saison, quoi, saisonnier.
Non, mais combo gagnant, là.
Combo gagnant.
Plus framboises, plus agriculteurs, de main dans la terre.
Oui, mais c'est sûr que c'était assez jouissif et super enrichissant. Et c'est vrai que donc là, je découvre ce festival et ses concerts, et notamment la guitare.
Ok.
Voilà. Et je me rends compte que c'est quand même un moyen d'expression énorme, et que ça a l'air super d'en faire, en fait, ça a l'air fun. Et tout simplement, j'ai décidé un mercredi, première année d'études d'horticulture à Romans, au lycée horticole, paysagiste. Un mercredi, je pars à Valence et m'acheter ma première guitare qui ne valait rien, mais qui était très chère à mon cœur.
Sur un coup de tête,
bien sûr. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec l'instrument. Je me suis rendu compte qu'il y avait une émotion qui était... pas vraiment nommable, en fait, qui était unique, et tant mieux à ce moment-là qu'il n'y ait pas de mots qui puissent être mis dessus, parce que enfin on lâche aussi la tête pour être dans le corps et dans les doigts, dans la vibration. C'était une guitare classique avec des cordes en nylon, qui est toujours celle avec laquelle je joue.
Tu savais déjà qu'elle te suivrait longtemps?
Non, mais je pensais pas qu'elle allait me suivre aussi longtemps, parce que dans la vie amoureuse, c'est la plus fidèle, finalement. et elle me suivit. Elle m'aime aussi, j'espère un peu. Mais non, c'est extraordinaire, cette relation qu'on peut avoir avec un instrument, franchement. Et elle a révélé beaucoup de mes émotions, quoi, en fait. Donc, c'est super.
Tu as appris à jouer naturellement?
Oui. Ouais, j'ai jamais pris de cours, en fait. J'ai jamais pris de cours de chant, j'ai jamais pris de cours de guitare. Je crois que j'avais un certain ego aussi. Et j'avais aussi peur de tomber sur un... En fait, j'aimais pas trop les profs à l'école. assez, enfin, il y en avait deux ou trois que j'aimais beaucoup, mais je crois qu'on connaît un peu tout ça. On,
ouais.
on est à un ou deux et les autres, on est là. Et j'aimais pas la, j'aimais pas de, qu'on me force à apprendre. Là, c'était moi qui avais décidé d'aller apprendre quelque chose. Et ça, ça change toute la vie. Quand c'est soi-même qui dit son pour soi, c'est comme ça. Et là, donc, le plaisir arrive, la recherche, l'expérimentation, la pratique et l'émotion, du coup.
Tu te souviens quelles grandes émotions te traversaient?
Oui, il y avait quelque chose. En fait, c'était très physique. J'ai pleuré, je crois, la première fois où j'ai commencé à poser un accord correctement. Je ressentais des choses qui vibraient vraiment dans mes mains et dans mon ventre aussi. Il y a eu vraiment une réelle connexion avec l'instrument, avec la vibration de l'instrument et ce langage en fait, qui est pour moi des premiers langages, hein, celui de la musique véritablement et la connexion au monde aussi. Ce langage universel en plus, qui n'a pas besoin de mots, c'est même pas comme le cinéma, c'est encore plus direct la musique. Et je pense que ça relie aux autres, mais surtout à soi, et ça centre. Et moi, on m'a souvent dit que quand je chantais, j'étais pas la même personne. Enfin, à un moment donné, il se passe quelque chose où en effet, je pense que c'est peut-être de ça dont les gens voulaient parler, c'est ce centrage. À un moment donné, tu es là, tu n'es plus dans ta tête, ailleurs quoi. C'est le moment présent.
Ou alors t'es précisément toi-même, justement.
Exactement, c'est ça. Mais moi-même, je serais pas comment le décrire encore aujourd'hui, mais je sais que c'est un endroit où, ouais, je suis moi. En tout cas, je suis ailleurs. J'ai l'impression de voyager et en même temps d'être tout à fait conscient de ce voyage et de nourrir aussi. Du coup, j'ai l'impression, enfin, je crois, parce que des retours que j'ai, les gens aussi qui viennent écouter et qui me disent merci, ça apaise énormément. Et puis c'est beau. Et puis c'est, on a oublié l'espace d'un moment, le temps. Et bon, ça c'est quand même précieux.
C'est clair, on va en parler. Donc, il y a les émotions que tu arrives à poser à travers les notes de musique, mais il y a aussi tes mots à toi que tu as appris à habiller autour de ces notes de guitare. Oui. À quel moment tu as découvert ta voix?
Mais je dirais franchement au fur et à mesure, en fait. Parce qu'au début, je chantais, mais assez maladroitement et en force, tu vois. Un peu comme quand tu découvres quelque chose... On le fait souvent avec violence, en fait. Ce qu'on fait, parce qu'on veut y arriver. Tu vois, on veut aller au résultat tout de suite. Et en fait, on se rend compte que c'est dans la précision et dans le relâchement, dans l'effort aussi. Mais ça veut dire que c'est de la pratique. Ça ne vient pas comme ça.
Et dans la durée.
Et dans, exactement. Exactement. Et là, mais je dirais que la voix, ça a été aussi ça. Il y a eu, j'ai eu cette chance, en tout cas, que quand je jouais de la guitare, la voix est arrivée assez naturellement derrière, enfin, dessus. Et j'avais le souvenir que les gens disaient mais c'est pas évident de chanter en même temps que jouer et tout, et bon voilà, j'ai eu cette chance là où moi ça a tout de suite été assez simple et je me suis trouvé ma manière de placer ma voix, justement, tu vois, de savoir quand respirer. Bon, au fur et à mesure, évidemment, j'espère j'évolue et je retrouve de plus en plus de plaisir d'ailleurs, parce que je sens que ma voix, je la force plus, je la soigne un petit peu quand même. Mais la voix, ouais, au fur et à mesure, et le fait qu'elle retombe aussi, qu'elle se place, de pas être dans l'aigu, mais au, je sais pas comment dire, de, tu vois, souvent quand je fais de la respiration, la voix au bout d'un moment retombe, parce qu'en fait le stress, la pression, la fatigue émotionnelle retombe et on est au plus proche de sa voix. Et donc la tessiture, quand on est calme, c'est sa tessiture de base, c'est la vie qui fait que souvent la voix monte. Quand on est fatigué ou stressé, les voix montent. Avant, il y avait des orateurs, des oratrices, je sais pas, ça se disait, bon, on va le dire aujourd'hui en tout cas.
Ça se dit, hein, ouais.
Ça se dit, des oratrices, quoi.
Oui, ça se dit.
Et je veux dire, ils n'avaient pas de micro, quoi.
Oui.
Et ils envoyaient, et la voix sortait. Et ça me fait penser. J'ai découvert aussi ma voix, pas seulement musicalement, mais quand mon père, ma mère me disait, tiens, tu peux appeler ton père, le repas, il est prêt. Et mon père était, genre, assez loin, mais pour qu'il m'entende, mais.
Dans les champs, avec ses framboises.
Et je. Là, je sifflais. Il m'avait appris à siffler sur les doigts.
Oui.
Donc je l'ai appelé, tu vois...
Papa à table.
Ouais, et c'est aussi ça, en fait.
Oui.
C'est aussi ça, découvrir sa voix. C'est, waouh, putain, il y a un truc qui peut sortir, qui est quand même vachement fort, quoi. Et ça sort de notre corps. Et souvent, malheureusement, la ville fait qu'on s'enferme, fait que la voix, en fait, on l'éteint. Parce que il faut pas gêner l'autre. Donc du coup, on n'est même plus sur sa propre voix, on est sur un semblant de voix, on est sur un filet, et on n'est pas au cœur de nous, quoi. En fait, on résonne plus. Et encore un point où la ville est compliquée aussi, parce que on peut pas crier tout le temps non plus.
Bien sûr.
Mais souvent tu vas chez les paysans où ils parlent, quoi.
Et ils sont bruts.
Alors ouais, non mais attends, carrément. Et ça vient du ventre, quoi.
Puis avec l'accent, avec l'accent, le langage qui va avec.
Le sourire, les machins qui. Et nous, ça nous ternit, quoi. Et ça, c'est quand même un vrai constat. Enfin, on peut pas vraiment dire le contraire. Aujourd'hui, on est dans les bureaux et on se tait, quoi.
Voilà. Et donc, au même titre que tu as appris à poser ta voix et tes notes, tu as aussi appris à choisir les bons mots pour faire des phrases qui libèrent.
Tu essaies.
Non, mais tu arrives très bien.
C'est gentil.
En quoi ça t'a aidé à grandir, d'arriver à faire des phrases qui dénouent ce que tu as au fond de toi, au final?
C'est une bonne question. Je me suis beaucoup jugé sur les mots. J'osais jamais, en fait, avant. Parce que, bon, il y a eu tant d'auteurs.
Moi, je vaux rien, quoi.
Tu vois ce que je veux dire?
Il y en a qui l'ont mieux fait, qui
l'ont
mieux, pourquoi moi?
La comparaison, toujours. À se dire, non, mais attends. Mais rien qu'en musique, évidemment, les Gainsbourg, les machins. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut s'aimer soi-même, arrêter de regarder ce qui a été fait avant. Mais sinon, musicalement, les Beatles, enfin, tu vois, on arrête alors, dans ce cas-là.
Bien sûr.
Tu vois, mais c'est son soi, en effet, qui amène quelque chose. C'est d'ailleurs, je dirais, assez récemment que j'écris vraiment. Je commence vraiment à être plus proche de moi, à moins me juger, à moins me regarder aussi, à moins avoir peur du regard des autres, de ce jugement de la musique, du milieu, de l'industrie musicale que moi, personnellement, je commence un peu à exécrer. Mmh. Et là, ça y est, une fois que t'enlèves toutes ces couches, que t'as plus d'attente, que t'es plus sur ton ego aussi, parce que c'est à toi, hein, enfin, là, tu commences à délivrer les mots de ton cœur, quoi. Et là, c'est vraiment salvateur, et puis surtout, ça soigne. Et là, ça va toucher des gens.
Comment on apprend à se libérer de son ego?
En souffrant. En passant par une nuit noire de l'âme.
Super, youhou. Allez, allons travailler notre ego.
Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas de souffrance sans joie. Il n'y a pas de joie sans souffrance. Mmh. On sait, hein, tout le monde le dit. Et c'était d'ailleurs cette interview de cet homme que je trouve formidable. C'est pas Thich Nhat Hanh, mais il était dans la grande librairie. Et j'écoutais cet homme. Tu sais, je crois qu'il est vietnamien aussi, mais j'adore.
Ah.
Mais... Tu vois,
faut
ou pas?
Que je retrouve.
C'est son
dans
nom
la grande
qui m'échappe.
Librairie, en plus. Il est passé récemment,
oui.
Avec Augustin Trapenard.
Exact. Anyway, ça va durer
okay,
trop longtemps.
On va retrouver.
Mais formidable. Et il le dit si bien. Il le dit si bien qu'il n'y a pas de joie profonde sans tristesse, enfin, sans douleur extrême, en fait. Mm-hmm. Il faut passer par la douleur extrême pour aller chercher la joie profonde. Et la joie et la confiance aussi en soi, je pensais. Et donc, je pense que l'ego, il est là. Il sera toujours un peu là. Mais on peut quand même le regarder, le maîtriser, le nommer, rigoler peut-être avec lui. Lui donner sa place, ok, t'es là aussi pour nous aider, mais ok. Et à ce moment-là, ça soigne pas tout, mais ça fait prendre peut-être plus confiance en soi et sur l'écriture. À un moment donné, d'ailleurs, j'avais écrit une chanson sur mon dernier EP de L'eau et la peau qui s'appelait Tu risques quoi? Et véritablement, je me suis rendu compte que c'était pour moi que je l'écrivais. Sur l'écriture. Enfin, tu risques quoi? Je t'ai toujours vu comme ça avant. Déjà, t'y perdais quoi? C'était un peu, t'as de l'or entre les doigts. Non, mais je veux dire, j'ai arrêté de me juger et de me dire, mais t'y arriveras pas.
Et alors, qu'est-ce qu'on risque au final à oser?
Mais rien! À part se rencontrer et... C'est ça, le pire. C'est qu'on risque absolument rien.
Non.
Rien. Rien qui puisse. Parce que, en plus, et on le sait, l'écriture, c'est une libération extrême. C'est encore une fois quelque chose qui nous soigne, qui nous rapproche de nous.
Ça peut soigner tout le monde, l'écriture?
Je le pense. Soigner de quoi, je sais pas, mais en tout cas ça peut faire du bien à tout le monde et ça fera évidemment donc du coup par conséquent jamais de mal, sauf si on décide d'écrire toute ça rage sur quelqu'un, et encore, quoique ça peut libérer des choses et qu'on met sur le papier et qu'on écrase après, bon, bah, ça gêne personne et en plus toi ça va te faire du bien. Moi je pense que les gens écrivent pas assez, en tout cas ils écrivent trop sur leur téléphone, on écrit trop sur notre téléphone pour des choses parfois qui veulent, qui ont pas vraiment de sens
et pas assez sur des feuilles blanches.
Bah ouais. Tu vois, sur des feuilles vierges. Et je suis le premier concerné par ça. C'est une rigueur. On en parlait tout à l'heure, mais. Ouais, on devrait écrire plus pour plus se rencontrer et s'assumer, quoi. Je pense un peu. Ça sert du bien.
Toi, tu as finalement réussi à t'assumer et à prendre petit à petit confiance. Du moins, tu y travailles.
Oui, j'y travaille, je dirais. C'est un long chemin.
Et c'est en 2007, finalement, que tu as débuté sur scène.
Ouais.
Avec tes propres compositions. Que tu as osé dévoiler au grand jour. Et tu as sorti ton premier album qui s'appelle Jardin en ville. C'est bien ça, hein? C'est lui le premier album.
Écoute, j'ai quand même bien voulu le... Il y a eu une aventure très malheureuse et j'ai voulu l'éraser, celui-là, cet album-là.
Ok.
Donc pour moi, le premier album, c'est De silence en bascule.
Ouais.
Et le deuxième, Regain, comme un deuxième album.
Ouais.
Mais je comprends, parce que tu as bien fait ton travail. Et tu as trouvé cet album qui, où j'avais déjà envie de ramener du jardin dans la ville, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui m'a pris un peu tout mon argent et une grande désillusion. Et c'était pas mes chansons, en fait, compte. Alors dans ma tête, c'est pas mon premier album. Mais oui, il y a eu des chansons, des essais. Alors là, véritablement, c'était vraiment...
Mais ça fait partie aussi de qui tu es et de où
oui,
tu en es aujourd'hui.
Oui, ah bah, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, là, il y a eu quelques, il y aurait quelques années, je t'aurais dit que je préfère qu'on enlève ce passage-là sur le podcast, mais laissons-le. Mmh. Clarifions les choses plutôt. Moi, c'était pas moi-même. J'ai rencontré cette personne à ce moment-là où c'était pas dingue, la personne que j'ai rencontrée. Elle m'a aidé aussi, mais elle m'a surtout pris beaucoup d'argent et beaucoup de temps et beaucoup de confiance. Elle m'a fait souffrir, cette personne-là. Vraiment.
Ce longtemps. Qu'on appelle la vie.
Oui, 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 c'est vrai. On appelle ça en effet la vie.
En tout cas, quels que soient tes albums,
ouais.
On dit souvent que tes chansons évoquent la nature, le voyage, le souvenir, l'amour et les questions existentielles. Donc tous ces sujets reviennent.
Ouais.
Et toi, tu réponds « ok ». Donc nature, voyage, souvenir et amour, ça va ensemble ?
Bah, bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de voyage sans amour. Il n'y a pas de amour sans voyage. L'introspection fait partie de l'ouverture à l'autre, à soi. Tout est réuni, en fait c'est ça, tout est lié. Donc assez souvent quand on me dit, des journalistes m'ont dit mais ah vous écrivez beaucoup hein, sur la nature, sur l'amour. Mais tu veux que j'écrive sur quoi?
Oui, c'est fait ça la vie.
Exactement. Explique-moi. Parce que moi la nature c'est la nature humaine, c'est la nature tout court bien sûr, celle qui fait qu'on est là, vivant, qui fait qu'on respire. Donc déjà là en fait en soi on pourrait écrire là-dessus pendant une éternité en fin de compte. Et puis après, oui, sur les voyages, bien sûr, enfin, c'est la même chose. Donc oui, pour moi, c'est un seul et même sujet, en fait. Et c'est après, ça dépend de l'axe avec lequel t'en parles et t'abordes. Mais j'aime parler de ça. Et dans la nature humaine, je peux aussi parler de la politique, forcément, du coup. C'est parce que... Mmh. Parce que c'est complexe, la nature humaine, on connaît. On connaît nos folies, nos envies, nos névroses, nos maladies, en même temps nos joies. Enfin, oh, tout ça, c'est... Enfin, j'invente rien, mais je veux dire... C'est évident, quoi. C'est tout.
Et c'est à la fois fabuleux, tellement c'est vertigineux et complexe.
Exactement.
On peut pas parler de toi sans parler de Jean Giono.
J'ai de la chance, dis.
Parce que c'est aussi constitutif de qui tu es.
Ouais, c'est
et
vrai.
Tu es actuellement en tournée de ton spectacle Le bruit du blé, qui met en avant donc cet écrivain. Mmh. À travers la littérature, tu mets aussi du théâtre, de la danse et du chant. Bon, j'ai pas encore vu le spectacle, mais j'espère le voir bientôt. Mmh. Qu'est-ce qui te passionne finalement tant dans Jean Giono?
Sa force, sa vision, sa réconciliation avec tout, l'animal, le végétal, l'humain, sa faculté de faire naître devant nous des images absolument sublimes. C'est des peintures vivantes tout le temps. C'est la force qu'il a de nous ramener dans une époque, ça c'est évidemment la marque des grands auteurs, de jamais nous perdre et de tout le temps nous amener vers l'inconnu en même temps. Moi, Giono, il m'a fait renaître à moi, mais vraiment. Je le sais, puisque quand j'ai décidé de faire ça, d'imaginer humblement un peu un spectacle qui lirait ses textes, notamment du bouquin Que ma joie demeure, mes chansons de l'album Regain, alors que je savais même pas qu'il avait écrit un roman qui s'appelait Regain aussi, et que c'était mon père qui m'avait dit le Regain, c'est la deuxième herbe, enfin tu verras, celle qui pousse après, enfin, ah d'accord, c'est marrant.
Coïncidence,
je ne crois pas. Et oui. Je suis vraiment tombé dans la marmite Giono, dans sa vision tellement paisible aussi. Il parle de, tu vois, mais paisible, mais et en même temps c'est ça que j'adore chez Giono, c'est il met en avant, si tu veux, la beauté, le bonheur, la joie, mais la difficulté, le malheur des corps, la solitude extrême des milieux paysans notamment. Et il a toujours écrit sur eux en disant voilà ce qu'ils vont faire de vous, quoi. Il parlait donc de l'industrialisation moderne, du ce qu'on appelait le progrès, quand il expliquait nous sommes dans l'extrême multiplication des générations que la technique industrielle a entassées dans les villes. De ce côté-là, il ne reste plus aucun homme naturel. Partout, ce sont eux qui gouvernent, partout, ce sont eux qui régissent les lois de votre vie et l'exercice de votre mort. Ils ne font comme si vous n'existiez pas, vous, les paysans. Mais vous êtes séparés d'eux par la simple et éducation logique que la nature a donnée à tout votre corps physique et à tout votre corps social. Et vous êtes la grande majorité du monde. Mmh. Si tous les paysans du monde se réunissaient, ils installeraient d'un seul coup sur Terre le commandement de leur civilisation. Et tous les petits gouvernements ridicules, ceux qui maintenant sont les maîtres de tout, finiraient leur jour en bloc, parlement, ministre et chef d'État réunis dans des cellules d'asile capitonnées. Bah, tu vois,
c'était assez précurseur et visionnaire
folie,
même.
Mais complètement. Et il avait écrit un bouquin qui s'appelait, il a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle Lettres aux paysans sur la pauvreté et la paix. Il leur écrit à eux en disant voilà ce qu'ils vont faire de vous. Et je suis encore plus déchiré, encore plus révolté de vous. que vous, parce que j'ai la connaissance de ce qu'ils veulent faire de vous. Ces hommes faux, incapables de nouer une corde, de dénouer généreusement les cordes, ces êtres vivants incapables de vivre, c'est-à-dire incapables de connaître le monde et d'en jouir, ce sont d'anciens paysans.
Tu connais tout par cœur.
Bah non, parce qu'il me fascine. Et,
oui,
et puis c'est si bien écrit. Oui. C'est extrêmement musical. C'est ça que j'adore chez Giono, c'est que c'est rythmique. C'est un grand auteur. Et en même temps, il n'y a pas un mot qui est à côté. Il n'y a pas une émotion. Enfin, c'est bon. Il était très virulent hein, avec justement le monde moderne, ce qu'il appelait les temps présents. Malheureusement, ça se vérifie. Ouais.
Mais il faut parfois être radical aussi.
je pense qu'on ne l'est pas assez. Enfin, eux, en tout cas, ils le sont bien avec nous. Malheureusement, je fais partie de ces gens-là qui pensent qu'il faudrait qu'on il faudrait que le peuple soit plus radical, et moi y compris, je ne le suis pas. Parce qu'il nous endorme, on le sait, on essaye de faire des choses qui ont du sens, qui nous donnent du sens, qui nous donnent de la joie. Mais au fond, c'est une grande révolte qu'il nous faut là.
Tu te sens endormi encore ?
Ouais, je pense que nos vies nous endorment. Ils le savent très bien et on le sait aussi. Nos vies, nos responsabilités face à la vie, à cette vie aussi. C'est très difficile d'arriver de se dire genre, stop, j'arrête tout. Mais en fait, on est quand même dans un système, qu'on le veuille ou non.
Mais est-ce qu'il faut nécessairement tout arrêter pour sortir de l'endormissement ?
J'espère pas, mais je crois que ça part de ce truc de radicalité. Quoi. Sans radicalité, est-ce que vraiment il y aura un réveil, en fait ? Un réveil collectif, et même, et surtout individuel. J'aurais pas la prétention d'avoir cette réponse, mais je pense qu'il y a des réveils un peu ici et là, quand même, dissimulés partout dans le pays. Chez les gens, dans leur cœur, dans leur foi, enfin tu vois.
De plus en plus.
Et vraiment, tu le sais, en rencontrant des gens, moi je saurais que ce spectacle, le bruit du blé, l'idée c'est vraiment d'aller dans des fermes, d'aller au plus proche des paysans, de nourrir ceux qui nous nourrissent, de ramener l'art à la campagne, de décentraliser l'art, et de c'est urgent. Pour moi, et puis de mettre en lumière ces gens-là, de leur donner la parole. Et moi, ça me nourrit, mais c'est un long combat. Mais je pense qu'on est à l'aube de quelque chose de bien aussi, de fort, de beau.
Tu y crois?
Mais il faut, enfin, de toute façon, sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On est assis sur une tombe là actuellement.
Oui, mais
autant
ça
l'ouvrir.
Pas le dire
autant
non
l'ouvrir.
Plus.
Si, mais si. Je pense pas qu'on soit les pires. Allez. J'espère qu'on vous embête pas trop.
Tu dis que Jean Giono t'a rendu le sourire quand tu le perdais peu à peu.
Oui, rien que le titre Que ma joie demeure, moi je crois que j'en avais besoin à ce moment-là, à Paris, j'en avais vraiment marre. Je trouvais plus de sens aussi à ce que je faisais dans l'art, en fait. À comment je le faisais, pour qui je le donnais, pourquoi, en fait. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi je pense que le cheminement d'un artiste, c'est évidemment continuellement se remettre en question. Profondément, honnêtement. Pas pour faire bien, je veux dire, c'est important. Et oui, à la lecture de Giono, il m'a donné les réponses, sans y m'y attendre, en fait, mais... Il m'a même fait d'ailleurs à un moment donné de déménager dans la Drôme, pendant la Drôme des Collines, là, vers Pont de Barret. D'ailleurs, si jamais un jour ils entendent, je les salue fort, quoi, parce que j'ai rencontré un village extraordinaire avec des gens qui habitent vraiment très fort ce village. Ils donnent beaucoup d'amour, beaucoup de sens, beaucoup de joie. Des anciens, de personnes, tu vois, de grandes villes qui sont partis parce que justement ils se trouvaient plus de sens à leur propre vie, qui aujourd'hui sont des maraîchers. Et tu te dis, mais il y a un réveil quand même, c'est vrai, du coup. Et puis le réveil à la joie, quoi. C'est en effet ça. Moi, il m'a réveillé, en fait, Giono, quelque part. Donc, je pense que le réveil, il est possible à travers des livres.
Mais pas que.
Mais
à
oui,
à travers des musiques aussi.
À travers des musiques et des films. Enfin, l'art, quoi. Ouais. L'importance de l'art, elle est vraiment indispensable.
Tu as eu la chance de visiter sa maison. Qu'est-ce que tu as ressenti en allant chez lui, toi qui l'admire tant et qui a tellement connecté à son univers à travers ses écrits? Le jour où on rentre dans cet espace si intime où il a écrit tous ses livres, ça doit être très fort. Je me demande ce que tu ressentais.
T'as raison, merci de poser cette question, ça me replonge là-dedans. Alors déjà, je crois que j'ai eu plus d'émotions à rencontrer sa fille, qui est vivante, Sylvie, qui a 93 ou 14 ans,
wow.
Qui nous a accueillis chez elle, on a répété chez elle, enfin, c'était fou. Que plutôt son endroit qui est devenu un musée, tu vois, sa maison maintenant au Paraïs à Manosque, j'ai évidemment apprécié, je me suis projeté. Ouais. Je sais qu'en plus, tu sais, on l'appelle le voyageur immobile. Giono, c'est vraiment, il avait une fenêtre sur le Mont d'Or, je crois, la petite montagne, avec une petite vue sur, mais très peu de choses. Mais alors, et son bureau, d'après sa fille, évidemment, je la crois, n'a absolument pas bougé.
Ouais.
Et il choisissait son grammage, tu vois, de papier, la couleur. La couleur de l'encre, la taille du stylo, enfin du stylo, c'est du, comment on appelle
de
ça?
De la plume.
De la plume, merci.
On a tellement plus l'habitude de s'en servir.
Ça, on parlait d'écrire, mais évidemment, enfin, ouais. Qui écrit aujourd'hui avec une plume? pas moi en tout cas. Mais ça, il faudrait le faire aussi. Ça doit être une grande joie. Et il le dit lui-même, des petits bonheurs sont au quotidien. Un papier qui glisse bien, la visite de quelqu'un qui vous aura plu, un oiseau qui aura tapé à votre fenêtre, un vent particulier. En fait, je pense que c'est pour ça que la nature, c'est partout en fait. Je crois qu'il faut savoir aussi les voir, les joies et les bonheurs. On est truffé toute la journée, je pense, de ces espaces-là, de ces cadeaux, mais on ne les voit pas parce qu'on croit qu'on n'a pas le temps de les voir. On prend pas le temps de les voir. Et le temps qu'on a, on décide d'en faire quelque chose ou pas. Et on peut se dire, oh, moi, j'arrête pas, mais tu peux dire ça toute ta vie. Mmh. Comme dirait Christophe André, tu peux passer ta vie à passer ta vie, à passer à côté de ta vie. Mmh. C'est vraiment infernal, quoi. Enfin, et c'est à nous de discerner l'endroit, l'espace qu'on veut se donner pour se nourrir, pour... lever les yeux au ciel, quoi. 2 minutes dans la ville, quoi.
Et quel rapport, toi, tu as avec le temps? Est-ce que tu essaies de le contrôler, de l'optimiser, ou est-ce que tu t'abandonnes à lui au maximum?
C'est l'enfer. Moi, j'essaie de m'abandonner. Je crois quand même que, de plus en plus consciemment, le temps, déjà, c'est mon allié, c'est mon ami, mais aussi, c'est aussi, comme en fonction de comment on le voit, ça peut être aussi notre ennemi, parce que ça, lui, il nous attend pas. C'est véritablement ça, mais il y a là la plus grande richesse, quoi. C'est la chanson que j'avais fait sur... chanson qui s'appelait Renoncer, sur le temps, quoi, qu'on a, et là, qui est notre plus grande richesse. Tant qu'on se donne, qu'on donne à l'autre. Et j'ai un rapport très passionnel, à presque amical, avec lui, je dirais, aujourd'hui. Et on a de la chance. En fait, on est décisionnaire de ça. Donc, autant vraiment le regarder, arrêter de regarder justement sa montre, mais s'abandonner à lui, ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, et... Ouais, je crois que ça aussi, ça nous soigne, quoi.
En parlant de cette chanson, Renoncer, quelle est la plus grande chose à laquelle tu as renoncé?
Ouh, quelle grande question. Eh bien, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je crois que renoncer à cette vision unique de ce que c'est que le succès. J'ai renoncé à croire que c'était ça. Mais le renoncement, pour moi, c'est plutôt une... On renonce à quelque chose pour... quelque chose d'autre. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Tu vois, on dit toujours renoncer, choisir, c'est renoncer. Mais et en effet, c'est un choix que tu fais dans ta vie à un moment donné, de te dire genre, est-ce que l'image de ce succès-là, c'est-à-dire d'être reconnu, connu, est-ce que vraiment ça t'importe? Est-ce que ça va te nourrir ou plutôt te rapprocher vers de qui tu es, avec le tempo, le rythme que toi tu veux, que tu décides, les endroits dans lesquels tu vas chanter ou peindre ou n'importe quoi? Là, tu renonces plus, tu fais un choix. Tu choisis que cette vision-là de la vie, c'est celle qui te convient le mieux. Et voilà, je dirais que j'ai renoncé à cette image que je me faisais du succès, qui était justement le regard de l'autre, en fait. Et un succès dont tout le monde parlerait. Enfin, tu vois, ça, c'est... qui était pour moi une hérésie absolue, fait une bêtise. Mais bon, voilà, on grandit.
D'ailleurs, tu dis... Ouais, heureusement, hein.
Oui.
Mais tu dis artiste, ça veut trop souvent dire se montrer. Faire de nouvelles photos pour la presse, les réseaux sociaux, les magazines. Depuis quelques années, je me sens un peu en décalage avec tout ce merdier. Cette machine qui fait que soit tu joues le jeu, soit tu dégages, c'est très particulier. J'ai clairement pas des millions de followers, mais je suis trop occupée à vivre ma vraie vie. Est-ce que ça te coûte, au final, de vivre ta vraie vie?
Absolument pas. Ça me coûte que de la... pas que, mais beaucoup de joie. Aujourd'hui, beaucoup de c'est des mots très gros là que j'utilise, hein, la joie et tout, mais c'est vrai, quoi. Enfin, je pense que se couper de ça, les réseaux sociaux, et comme tout, si tu l'utilises entre guillemets à bon escient, ça peut être vraiment formidable. Nous, c'est cette rencontre là, c'est quand même c'est quelqu'un, en l'occurrence Jérémy, mais je veux dire, on le sait, quoi. Il peut y avoir des choses extraordinaires, des liens qui sont faits, des rencontres, des découvertes, des trouvailles qui sont fabuleuses. Mais maintenant, de penser qu'à ça, et en effet, là, pour revenir sur ce que tu disais, le problème de l'artiste comme il est vu beaucoup aujourd'hui, c'est, être dans les magazines, mais de moins en moins, je crois, quand même. Il y a aussi l'autre pan, quand même, qui comprend que...
Oui.
Et les réseaux, d'ailleurs, peuvent jouer ce truc-là. On n'a plus besoin d'être forcément dans des magazines, parce que si t'as des millions de followers et tout, bon, moi, j'ai pas ni l'un ni l'autre, mais je salue mes petits followers et je suis très content de ces gens-là qui me suivent pour les vraies raisons aussi, je crois, aujourd'hui. Donc c'est ça qui est, moi, important, plus important, c'est de savoir pourquoi les gens sont là. Parce qu'une fois que t'as fait tout un travail sur toi et que du coup t'as discerné et que t'as renoncé à des choses, là tu fais un tri naturel. Il y a des gens qui bah qui se barre, hein, parce qu'ils sont là, ouais, alors lui c'est bon, il a lâché l'affaire, il abandonne. Non, je lâche pas, c'est juste que je vais vers là où je crois que c'est mieux pour moi d'aller. Et si tu veux me suivre, tu me suis, donc tu es le follower, voilà, très bien, bah, avec aucun problème. Mais en plus, si je te nourris sur des trucs, des pensées, des visions artistiques, ce que ça veut dire être, moi je préfère, je crois qu'on m'appelle, enfin d'ailleurs c'est pas je préfère, c'est je suis sûr, artisan qu'artiste.
C'est beau ça.
Mais parce que ça vient de là.
Ouais.
Moi, tu vois, j'ai toujours cette même guitare. Je mets du temps à écrire les choses, à les composer. C'est comme un menuisier, tu vois, qui va faire une table. Ben, au début, t'as une matière brute. C'est un gros bout de bois, tu vois. Et puis tu sculptes, tu travailles au fur et à mesure. Ça, c'est de l'artisanat. Eh bien, moi, j'aime bien essayer d'imaginer ma vie, ma conception de l'art comme ça. Tu poses cette chose un petit peu là. Tu reviens plus tard. Tu passes un peu à autre chose, mais tu l'oublies pas.
Mais c'est beau et c'est précieux d'arriver à s'autoriser ce temps long finalement.
Ouais, je pense que c'est précieux, ouais, bien sûr. Tout à fait. Puis c'est, en tout cas pour moi, ça me paraît indispensable aujourd'hui dans ma conception de l'art, quoi.
Et est-ce que parfois tu te dis, je passe peut-être à côté d'autres opportunités ou de plus de visibilité ou que sais-je, parce que justement je ne suis pas dans cette course au toujours plus.
Mais c'est évident. C'est évident qu'on passe à côté de choses, mais on passe tout le temps à côté de choses. C'est l'histoire de la vie. Quand t'es là, t'es pas ailleurs. Enfin voilà. Mais j'aime bien aussi cette idée. Et j'aime bien aussi que les choses que je dois entre guillemets attraper, elles sont pour moi à ce moment-là. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que les choses ne reviendront pas plus tard ou que je les reverrai pas sous un autre angle. Ou faire confiance à ça aussi. Faire confiance à cet endroit où simplement t'es là, à l'endroit où tu es là, et il t'arrive ce qui doit arriver là, voilà.
Bah, ça fait une belle transition à un passage de Jean Giono, je reviens à lui, mais il y a un texte qui me parle beaucoup.
Ok.
Donc je vais le citer. Il dit « Toujours attendre, toujours vouloir, avoir peur de ce qu'on a, vouloir ce qu'on n'a pas. L'avoir et puis tout de suite avoir peur que ça parte. Et puis savoir que ça va partir d'entre nos mains, et puis ça part d'entre nos mains. J'allais dire comme un oiseau qui s'échappe, non, comme quand on serre une poignée de sable. Voilà. » Est-ce que toi, tu as peur de ce que tu as et tu veux ce que tu n'as pas?
Eh bien, de moins en moins, franchement, je dirais, c'est vraiment ça. C'est que vu que j'arrive à de plus en plus à, dans ma vie au quotidien, j'essaye en tout cas, évidemment, ça tangue. Hein, c'est la vie, quoi. Hein.
Un bateau.
C'est un bateau, c'est une sacrée affaire. Mais discerner ce qui me convient et ce qui ne me convient pas, ce que j'aime pas, ce qui me nourrit, ce qui me nourrit pas. Mais je dirais que ce que j'ai aujourd'hui, je le chéris. Et ce que je n'ai pas, de toute façon, je sais pas ce que je n'ai pas. Enfin, donc du coup, je l'ai pas entre mes mains justement. Donc déjà autant peut-être ne pas trop y penser. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire pour moi et de ouais de chérir quoi ce qui est déjà là quoi. Enfin, c'est déjà tellement énorme. C'est si bien écrit ce qu'il dit là quand même. J'aime bien le citer d'ailleurs en concert ça, tout ça. Il y a trop de choses qui nous paraissent toutes petites, mais on peut en faire des grandes choses de ces choses minuscules, justement. Et Giono est un maître pour décrire tout ça, vraiment.
Une grande question, la liberté, c'est quoi pour toi?
Imagine ces questions. La liberté.
Ah, je te facilite pas la tâche, hein.
Non, mais c'est des belles questions et c'est des grands mots, en fait. C'est des grands mots, ça. La liberté, c'est quoi? Il faut le voir que, je vais essayer de le voir que par mon prisme, parce que, moi, je pense à des gens qui sont expatriés de chez eux. Enfin, bon. Pour moi, la liberté, c'est être bien partout. Être, s'aimer soi-même, tu vois, pour, avoir de l'amour propre, de l'estime de soi. Et la liberté, c'est ne pas répondre à, évidemment, des injonctions, à ce que ce que veut nous faire croire cette société là, malheureusement dans laquelle on est tous, qu'il faut réussir par cette manière, qu'il faut que tu ailles voir cette personne, enfin les il faut, je dois, enfin, et juste être, se sentir soi, oui, je le redis, mais partout là où on est et dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, savoir que oui, que ce que tu dis c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, que ça te touche au plus profond. Et du coup, à ce moment-là, je pense que tu peux plus incarner déjà la liberté.
Il y a Cyril Dion dans une émission sur France Inter, il me semble, sur l'embellie, je crois. Tu connais pas Cyril Dion? Non, c'est pas possible. qui disait s'aimer soi-même suffisamment pour ne pas être déstabilisé que quelqu'un cesse de nous aimer un jour. Là réside la liberté. Et j'avais écouté ça en me disant, mais waouh. Est-ce que toi, tu t'aimes suffisamment?
Bah après, ça c'est justement l'amour, la dépendance affective. Il y a un gros sujet là-dessus. Je pense que l'être humain, il est fait pour converser avec l'autre, avancer, évoluer aussi. Il y a soi-même, il y a l'autre aussi. À un moment donné, il ne faut pas vivre que dans les yeux de l'autre. Ça c'est vrai. Donc c'est ce que je comprends. C'est ce que je disais un petit peu, mais s'aimer suffisamment, oui, en effet, pour pas que l'autre vienne te dépister s'il ne t'aime plus. Voilà, parce que on ne doit rien finalement attendre de l'autre. On doit être assez fort soi-même pour faire face à tout ce qu'on doit faire face dans la vie. Enfin, c'est ça en fait l'affaire. C'est que c'est déjà tellement déstabilisant au quotidien, tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on doit faire, tout ça, que on a besoin de s'envoyer des sacrées doses d'amour quand même. Parce que c'est éreintant, c'est ben voilà, on sait pourquoi, hein. Autant de burn-out, autant de gens qui pètent des câbles, parce que c'est épuisant. Mais si on veut répondre à tout, c'est épuisant. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi se mettre 2-3 limites
et se respecter.
Et se respecter vraiment et en effet respecter les limites des autres aussi. Mais ça c'est très compliqué parce que quand tu connais pas les tiennes, t'arrives forcément sur le terrain de l'autre en fait. Et le discernement, ça c'est vraiment Dassenbourg qui en parle beaucoup. Sur la communication non violente, discerner là où tu es, là où tu n'es plus, justement, savoir ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas, les blessures de chacun. Mais c'est tout un travail avant de pouvoir communiquer de manière non violente, justement, et de pas prendre personnellement les choses. Je vais pas parler d'accord Toltec et tout, on connaît ces trucs-là, mais je veux dire...
ça demande du temps, de la patience aussi.
Et de l'amour.
Et de l'amour.
L'amour de mais oui, c'est ça, du temps, exactement, tout ça, c'est du temps pour soi, c'est du temps pour son propre amour et pour la planète, quoi, en fait.
Ah bah, oui.
Tout simplement, quoi. Si tu rayonnes, les gens sentent et voilà.
Bah, c'est vrai que souvent on dit prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, c'est égoïste parce que c'est du temps qu'on prend pas pour les autres ou pour un engagement quelconque en faveur de l'environnement. Mais en effet, c'est précisément quand on arrive à être aligné avec soi-même que ça se ressent, qu'on rayonne et qu'on apporte du positif à la société. Et donc, naturellement, on agit positivement pour la protection de l'environnement.
Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Ben, non, mais t'as répondu. Pour moi, c'est la vraie réponse. C'est ça, ouais, bien sûr. Ça, t'as tout à fait raison.
Est-ce qu'au quotidien, tu arrives à trouver des espaces pour toi, justement?
On y est là. Des espaces physiques, tu veux dire, véritablement?
Physique ou pas, mais un temps pour toi où tu te recentres, en fait, quotidiennement.
Oui, oui. Alors, il y a quelque chose pour faire le lien avec ce qu'on disait quand j'étais petit, pour le coup. J'ai toujours pris du temps pour moi parce que, bah, déjà, j'avais pas vraiment le choix. Enfin, je veux dire, on était très isolés. Il n'y avait pas vraiment d'anniversaire à la maison. Il n'y avait pas encore le GPS. Mmh. Les gens pouvaient pas venir. Enfin, bon, c'était... Et du coup, moi, j'ai passé beaucoup de temps seul aussi. Bah, ma sœur était en vie. Hein, elle était avec moi, mais... On n'avait pas les mêmes envies à tel moment et tout. J'ai appris assez rapidement à vivre seul, à me débrouiller seul. Je suis parti en internat à l'âge de 14-15 ans. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, je connaissais personne. Et donc oui, les espaces pour moi, les temps pour moi. J'adore aussi les gens, je suis très sociable, mais je me rends compte à quel point... Oui, c'est ça. Et je me rends compte à quel point ces moments-là pour soi sont extrêmement précieux et indispensables, en fait. Parce que sinon, on est tout le temps dans une fuite de soi vers l'autre. Mais pour faire quoi? Souvent, en plus, en vérité, c'est... Enfin, pardon, mais moi, je me suffis plus des discussions un peu en surface. Aujourd'hui, c'est pas que le temps m'est compté, c'est pas ça. C'est juste que j'ai envie d'en faire quelque chose de grand, en fait. Enfin, de grand, à mon échelle, tu vois. Mais des moments de qualité. Je préfère voir moins, mais mieux. Je préfère être à moi moins, mais mieux aussi. Tu vois, c'est sacrément précieux, cette affaire-là, quand même.
Et donc, apprendre à t'entourer aussi des personnes qui te nourrissent profondément?
Oui, c'est ça. Mais je crois que c'est encore une fois, j'avais entendu Christophe André parler de ça, des cercles d'entourage.
Oui.
Où je suis vraiment d'accord avec ça. Donc, il y a le cercle du travail, qui sont, moi, pour le coup, qui sont aussi beaucoup mes amis. J'ai finalement assez peu, moi, d'amis. J'ai toujours eu du mal à j'ai beaucoup de gens autour de moi, mais très peu de véritables amis. Aussi parce que je pense que j'ai été habitué à ne pas créer aussi tout ça. C'est du travail aussi, de l'amitié
et du temps,
et je suis assez solitaire et du temps, exactement. Et mais par contre, tu vois, je sais que il y a des gens aujourd'hui dans ma vie où voilà, j'envoie un message, j'appelle une fois, c'est bon, on en a pour 2-3 ans en fait, et ça suffit. Donc ça, j'ai arrêté de me mettre cette pression là parce que quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que tout le monde avait des bandes de potes, ils se connaissaient tous depuis l'école et tout. J'ai jamais eu ça. Et je me suis dit, mais toi, tu vois, ça va pas bien, en fait. Toi, t'es pas comme les autres, en fait. C'est bizarre, tu vois. Toi, tu dois pas être un bon ami, en fait. Enfin, c'est bizarre. Enfin, sinon, les gens t'enverraient plus. Ou...
Est-ce que tu te sens avancé à contre-courant en vivant à Paris? Là où justement, c'est constamment, tu parlais de fuite, mais c'est constamment ça. À Paris, on se retrouve tous les soirs pour boire un verre. Si c'est pas ça, on va au cinéma. Si c'est pas ça, on va faire les boutiques. Et on n'a jamais ces espaces de vide. Et toi, t'arrives à les cultiver en étant à Paris. Comment tu te sens par rapport au reste du monde?
Punaise. En tout cas, je fais ce que je peux pour les cultiver, c'est clair. Sinon, ça va pas bien. Comment je me sens? Bah oui, je me sens un peu en décalage. Et en même temps, c'est ça qui est fascinant. Parce que on peut pas tout le temps être parfaitement aligné. Oui. Enfin, et puis, y a la vie aussi. On doit la vivre. Moi, en ce moment, j'ai pas le choix. Je dois être à Paris. Et j'essaye surtout de voir les bons côtés de Paris. Tu vois, moi là, je suis content parce que je vois des gens que je veux en ce moment aussi. Je me nourris de et ça me fait du bien. Maintenant, oui, il y a beaucoup de choses à Paris. Ça, c'est très compliqué. Donc la violence, tu vois, la pollution sonore, auditive, enfin tout en fait. Je me rends compte à quel point le cerveau il est malmené. Il est même, c'est une torture en fait médiévale le truc. Enfin, les coups de klaxon à chaque rue, les gens qui hurlent, les agressions pour des trucs qui sont pas utiles du tout. Mais ça, c'est que des gens en fait qui sont déjà en perdition sur eux-mêmes. Alors du coup, c'est plus facile d'agir. Et c'est ça, c'est cette espèce d'énergie lourde. On parle des métaux lourds, mais dans les métros. Mais franchement, l'humain, il ressemble beaucoup à ça en ce moment à Paris, moi je trouve. Hein. Et il y a aussi des bonnes choses et il faut les voir parce qu'il y a aussi des gens bien. Et il y a des espaces de vie qui sont formidables. Mmh. Et franchement, c'est vrai. Et je le découvre aussi en revenant à Paris en ce moment. Mais il faut aller les chercher. C'est tout. Si tu restes depuis ta fenêtre, oui, bon, bah, ça peut être très, très chiant. Et on peut toujours avoir ce même discours fatigant, qui ne sert personne. Soi-même en premier, puis alors les autres. Et qui pollue, justement. Mmh. Et il y a une importance un peu, citoyenne, comme ça, à élever, l'énergie et à apporter du beau et du positif. Et je pense qu'il peut y en avoir partout. Et il y en a aussi dans beaucoup d'endroits.
Et c'est aussi une question de point de vue.
Exactement, voilà. Ouais, c'est ça.
Mais écoute Gaëlle, on arrive à la fin de cette interview. Je vais te poser la question signature du podcast.
Yes.
Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent? Alors initialement, je disais partager aux jeunes d'aujourd'hui, mais de plus en plus, les personnes qui écoutent le podcast sont pas forcément autour de la vingtaine, mais de plus autour de 30 et 40 ans, voire 50 ans maintenant. Donc j'élargis la question, quel conseil tu aimerais partager au monde?
J'écoute, un conseil, c'est toujours délicat parce que ça voudrait sous-entendre qu'on sait, mais en ce qui me concerne, je dirais que de jamais avoir honte ou peur de soi, de jamais vouloir plaire juste à une partie du monde, enfin je veux dire juste être en honnêteté, en intégrité avec soi, faire ce qui nous rend heureux véritablement au fond et se donner les moyens pour, quoi. Prendre le temps de discerner tout ça, faire une pause dans sa vie au quotidien qui parfois nous fatigue pour répondre à des choses encore qu'on nous impose, hein, tout ça. Et se dire genre, qu'est-ce que je fais sur Terre en fait? Pourquoi je suis venu là? Ok, il y a mes parents, d'accord, ok, tout ça, mais moi, en fait, je suis qui? Qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et déjà prendre ce temps-là. Le conseil, je dirais, voilà, c'est ça. Si je devais résumer, pardon, mais parfois, moi, j'ai besoin de beaucoup de mots pour arriver à mon mot, encore. Je suis encore dans tout ça. Peut-être tant mieux. C'est vraiment s'autoriser à prendre le temps qu'il faut pour s'aimer et se regarder en face et être qui on est fondamentalement au fond, quoi.
Fabuleux. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Gaëlle.
Merci à toi, c'est super. J'ai bien aimé le... Pas de son, j'aime parler, tu l'as vu, mais j'aime bien le podcast, en fait.
Bah, c'était une joie. Merci pour tous ces partages.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Et regardez mon micro. Hein.
Merci à toi.
Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Œil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.